Vous écoutez RTL.
Il est 7h.
RTL Matin, Yann Boucherie, Bernard Poirette.
Yann, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Lactalis à l'amende. L'entreprise va reprendre tous les lots de lait infantile produits dans son usine de Cran en Mayenne.
Et l'affaire s'étend maintenant à l'étranger, tous les détails dès le début du journal. À la une également, le tollé mondial provoqué par Donald Trump avec ses propos, je cite, sur les pays de merde. 54 États africains réclament des excuses. Nouvel élément dans l'une des enquêtes concernant Nordal Lelandais, des ossements ont été découverts à proximité du lieu où le crâne du caporal noyé avait été retrouvé. 9 ans après le crash du Rio Paris, l'indignation des familles de victimes. Un rapport d'experts pointe la responsabilité de l'équipage d'Air France, mais pas celle d'Airbus. Et puis les sports. La France a battu la Norvège 32-31 en ouverture du championnat d'Europe de handball. En football, victoire de Guingamp à Strasbourg 2-0.
Un cas de salmonellose a été révélé en Espagne et un autre est suspecté en Grèce. Le scandale Lactalis prend de l'ampleur.
Face à cette situation, le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table. Bruno Le Maire a annoncé que l'entreprise allait récupérer sans distinction tous les lots produits dans son usine de Mayenne. Il fallait juguler l'extension de la crise, Jacques Serret.
C'est une décision radicale. Le ministre de l'économie lui-même emploie ce terme. Radical et simple. En fait, jusqu'à hier, seules les boîtes de lait produites depuis le 15 février dans l'usine de Cran faisaient l'objet d'une procédure de rappel. Désormais, ce sont tous les autres lots restants, ceux produits avant la mi-février, qui sont également bannis. Lactalis s'est engagé à récupérer toutes ces boîtes de lait. L'objectif est clair avec cette mesure, qu'il n'y ait plus aucune hésitation ni confusion, notamment chez les distributeurs. Certains comme Leclerc ou Intermarché invoquaient une mauvaise gestion de la part du géant laitier. Il y avait eu 3 procédures différentes de rappel le mois dernier. Là, plus question de date ou de liste. Toutes les boîtes de lait infantile produites par Lactalis sont tout bonnement interdites à la vente. Les distributeurs, en plus de retirer les lots, pourront donc, par mesure de précaution, bloquer les codes-barres de marques comme Milumel, Picot ou encore Celia.
Le récit de Jacques Serret. Lactalis exporte ses produits dans une trentaine de pays et l'alerte a été envoyée dans toute l'Europe. Même si le nombre de cas reste faible à l'heure actuelle, les producteurs sont inquiets des répercussions hors de nos frontières. Camille Lepeinteur est agriculteur à Montchamp, près de Vire en Normandie.
Le risque, c'est la façon dont la production laitière française et les producteurs français vont être perçus à l'étranger. Quoi. Parce qu'un scandale comme ça, pour s'en relever, on sait que ça va être des mois, voire des années de boulot pour se refaire une image, pour reconquérir peut-être des parts de marché qu'on va avoir perdues. On va se coller des stocks qu'on ne va pas savoir quoi faire, qui vont faire que les prix vont s'accentuer vers le bas encore plus vite. Quoi. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un scandale comme ça, en réalité, se soit répercuté aux producteurs. Que ce soit nous qui en payons les pots cassés, qu'on soit producteur Lactalis ou producteur d'autres entreprises. Parce que comme c'est quand même Lactalis qui fixe un peu les règles du jeu, je pense que les conséquences, tout le monde va les avoir. Quoi. Le prix du lait, il est déjà pas payé à sa juste valeur. Donc si en plus il baisse, il y en a encore qui mettront la clé sous la porte. Quoi. C'est certain.
Camille Lepeinteur, producteur de lait à Montchamp, près de Vire en Normandie, avec Julien Caillard. Selon Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le président de Lactalis, Emmanuel Beignet, totalement muet depuis le début de l'affaire, a donné son accord de principe pour la rencontrer en début de semaine prochaine.
C'est un torrent d'indignation qui se propage à travers le monde après les propos de Donald Trump sur les pays sources d'émigration.
Le président américain s'était publiquement demandé, je cite, pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici? À propos des migrants qui arrivent aux États-Unis, faisant référence notamment à Haïti, aux États africains et au Salvador, la réponse n'a pas tardé, Philippe Corbet. 54 pays d'Afrique ont exigé hier à l'ONU des rétractations et des excuses.
Oui, il condamne des propos qu'il juge, je cite, scandaleux, racistes et xénophobes. Le gouvernement haïtien n'hésite pas lui non plus à parler de racisme. La secrétaire générale de la francophonie, ancienne gouverneure générale du Canada, née à Haïti, dénonce une insulte à l'humanité. Mais selon certains proches, le président est ravi de cette polémique, convaincu que ses électeurs pensent comme lui. Il y a 24 heures, la Maison-Blanche ne démentait pas ses propos, lui a finalement tweeté qu'il avait utilisé des mots durs, mais pas cela. Les participants à la réunion maintiennent qu'il les a bien prononcés et répétés. Et ses opposants rappellent que ce n'est pas la première fois qu'il donne le sentiment que ceux qui ne sont pas blancs ne sont pas les bienvenus en Amérique. C'est même comme ça qu'il est entré pour la première fois sérieusement en politique, à partir de 2011, en menant une campagne insinuant qu'Obama, fils d'un Kenyan et d'une Américaine, n'était pas né sur le territoire national et ne pouvait donc pas légalement être président. Pourtant, avec une mère britannique et 2 grands-parents paternels allemands, Donald Trump est le président américain le plus plus directement issus de l'immigration depuis un siècle.
Et Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. En Allemagne, un pas décisif a été franchi hier pour un gouvernement de coalition entre la CDU d'Angela Merkel et les sociodémocrates du SPD. Mais cela va prendre du temps. L'accord doit d'abord être validé par les délégués du parti de centre-gauche, puis ensuite par ses militants. Le nouvel exécutif ne sera probablement pas opérationnel avant le mois de mars.
En France, la police a effectué de nouvelles découvertes sur les hauteurs de Montmélian, c'est en Savoie, là où le crâne du caporal Arthur Noyer avait été retrouvé.
Oui, Nordal Lelandais, rappelons-le, est mis en examen pour l'assassinat du militaire. Hier après-midi, c'est en survolant la zone que de nouveaux éléments sont apparus, Serge Puyot.
C'est depuis un hélicoptère que les gendarmes ont repéré ces ossements sur les hauteurs de Montmélian, près d'un sentier de randonnée. C'est dans ce même secteur que le crâne du caporal Arthur Noyer avait été découvert par un promeneur le 7 septembre dernier. Hier, la zone où ont été retrouvés ces ossements, qui semblent d'origine humaine, a été immédiatement bouclée par les enquêteurs qui ont gelé les lieux. Impossible de dire encore avec certitude qu'il s'agit là des restes du jeune chasseur alpin dont Nordal Lelandais est soupçonné d'être l'assassin. Des analyses ADN vont être effectuées dans les prochains jours et de nouvelles recherches seront réalisées par les gendarmes sur le terrain pour tenter de rassembler les pièces de ce puzzle macabre qui pourrait permettre à l'enquête de progresser.
Les précisions de Serge Puyot. Un jeune homme d'une vingtaine d'années poignardé mortellement hier soir dans le métro parisien. Il aurait reçu deux coups de couteau dans les couloirs de la station Châtelet-Léal vers 18h30. Une dispute serait à l'origine du drame. Un suspect a été interpellé et un autre serait en fuite. Pas de coupable désigné pour l'attentat de la rue Copernic. Hassan Diab, l'unique suspect, a bénéficié d'un non-lieu de la part des juges d'instruction. Le parquet qui avait requis son renvoi aux assises a aussitôt fait appel. Le 3 octobre 1980, l'explosion d'une bombe devant une synagogue avait fait 4 morts et une quarantaine de blessés. Et puis Bernard Magret, agressé dans la nuit de jeudi à vendredi à son domicile bordelais, le grand propriétaire vinicole et son épouse ont été ficelés et rudoyés par 5 intrus qui ont dérobé une collection de montres et des espèces avant de prendre la fuite. Bernard Magret a pu se libérer et prévenir la police.
Il reste comme l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France avec 228 morts. Il s'agit bien sûr du crash du Rio Paris en 2009. Eh bien, cet accident serait dû en grande partie au comportement des pilotes.
Ce sont les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée par la justice et qui accable l'équipage présent dans le cockpit. De quoi susciter l'indignation des victimes, des familles des victimes qui craignent que Airbus échappe à ses responsabilités. Danielle Lamy est présidente de l'association Entraide et Solidarité. Elle a perdu son plus jeune fils dans l'accident.
Pour tout dire, on est indigné hein, quand même, parce que le rapport du BEA, le rapport du premier collège accusait à la fois l'aspect technique et l'aspect pilotage, et que dans ce nouveau rapport, eh bien, il n'y a plus que l'aspect pilotage. Seuls les pilotes sont accusés. Malheureusement, ils ne sont pas là déjà pour se défendre, mais il faut quand même savoir que non seulement il y a eu ce dysfonctionnement des sondes pitot où les pilotes n'avaient que des informations contradictoires sur leurs écrans, ils n'ont pas eu non plus l'alarme qui s'est déclenchée au bon moment, bien entendu. Les pilotes n'ont pas été formés, mais les arguments d'Airbus ont toujours été de dire que cet avion ne décrochant pas, il est inutile de former les pilotes au décrochage. Il y a vraiment eu un problème technique et nous espérons, comme c'est un rapport provisoire, que les experts judiciaires le reconnaissent.
Danielle Lamy, la présidente de l'association Entraide et Solidarité, jointe pour RTL par Pierre Julien. Dernière consultation sur Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre Édouard Philippe a reçu hier les élus de l'Ouest favorable au nouvel aéroport. Décision définitive avant la fin janvier.
Et je vous rappelle que Yann Trichard, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes, qui est favorable au projet d'aéroport, sera notre invité à 8h45.
Nouvel incident à la SNCF et Belle Pagaille hier soir en gare de Rennes. Le trafic a été totalement interrompu pendant plus de 2 heures en raison d'une rupture de caténaire. Il a repris progressivement, mais les retards ont été évidemment importants.
Les obsèques de France Gall ont été célébrées hier en toute intimité, comme on dit, au cimetière de Montmartre.
La chanteuse s'est éteinte dimanche dernier à l'âge de 70 ans. Un dernier adieu hier en présence de sa famille et de ses amis proches. Julien Clerc, ancien amour de jeunesse de France Gall, était absent, mais il a tenu à lui rendre hommage. En soirée, il était en concert à Longjumeau dans l'Essonne.
C'est une chanson que j'avais écrite parce qu'elle voulait partir loin de moi. J'avais écrit ça pour qu'elle reste, mais ça n'a pas marché du tout. Si un jour tu veux revenir, sans mots, sans pleurs, sans vain sourire, négligemment et sans te retenir,
L'hommage de Julien Clerc donc à France Gall hier soir en concert. Hommage également de pas mal d'auditeurs, bien entendu, hein, depuis dimanche dernier. Et encore ce matin, par exemple, Théo nous dit par SMS au 64 900 combien il est triste parce qu'il estime que cette femme était très discrète et très courageuse. Une pause dans ce journal avant d'entrer dans la page des sports. Entrée en lice victorieuse des Français à l'Euro de handball en Croatie.
RTL Matin, 7h12. Yann Bouchery, Bernard Poiret, on passe au sport.
Yann, un tout petit but d'écart suffit aux Bleus du handball pour leur entrée dans l'Euro en Croatie.
Les champions du monde en titre ont difficilement battu la Norvège 32-31 hier à Poreč. Menés de 2 buts à la pause, les tricolores s'en sont sortis grâce à un tir victorieux de l'ailier Mikael Gigou. Ils avaient dominé plus facilement la Norvège en Golden League la semaine dernière à Rouen. Cette fois, il a fallu s'employer un peu, selon Nicolas Karabatic.
On savait que ça allait être un match difficile, on savait qu'on allait commencer par le plus gros morceau du groupe, que ce match pouvait être décisif pour toute la suite de la compète. Et on se prépare maintenant depuis 15 jours juste pour ce match-là. La Norvège a très bien joué, ils ont été très efficaces sur les points où on les attendait. Nous on fait un très bon match, très bonne première mi-temps, on manque juste un peu d'efficacité et on se prend des contres sur des paires de balles, des choses faciles ratées et on court derrière le score. Mais on a montré énormément de mental parce que justement on ne s'est pas affolé, on est resté dans le match, on s'est battu jusqu'à la fin. On a cette belle victoire, ça démontre vraiment l'état d'esprit de l'équipe.
Nicolas Karabatic chez nos confrères de beIN Sport. Prochain match pour les Bleus, ce sera demain à 18h15 face à l'Autriche qui s'est inclinée 27-26 devant la Biélorussie.
Et en football, Guingamp a idéalement commencé l'année 2018.
Oui, une deuxième victoire après celle contre Niort en 32e de finale de la Coupe de France. Hier soir, les Bretons se sont imposés 2-0 à Strasbourg avec ce 4e succès. En 5 matchs, eh bien, il se hisse provisoirement la 6e place du championnat. Guingamp qui confirme sa bonne passe entamée fin 2017. La satisfaction de l'entraîneur Antoine Comboiré au micro RTL de Yannick Holland.
Je félicite mes joueurs parce que c'est un très gros match, une très grosse performance qu'on a sortie. Ici, on sait qu'à Strasbourg, c'est pas facile de venir gagner ici. Et je remercie les joueurs parce que c'est un beau cadeau qu'ils me font. Vous savez, c'est 2018, donc il y a les bonnes résolutions. Donc on a fait les entretiens individuels. Ils avaient tous envie donc, d'avoir des objectifs élevés avec des stats, des passifs, des buts. Donc ça démarre bien. Maintenant, il faut que ça continue. Quoi. On va rester humble, mais ce que j'attends d'eux, c'est d'être encore meilleur que ce qu'ils ont montré ce soir.
Et suite aujourd'hui des rencontres avec Rennes-Marseille à 17h, 5 autres matchs, dont 3 Bordeaux à 20h à suivre dans le multiplex RTL L'Équipe en compagnie de Christian Olivier et Pascal Pro. En Ligue 2, Reims a signé une 5e victoire d'affilée hier à Orléans, 2-0 et conservé à son avance en tête de Ligue 2. Une journée marquée aussi par la défaite surprise à domicile de son dauphin Nîmes contre Lens 1-0. Les autres résultats, victoire d'Ajaccio à Brest 3-2, de Quevilly à Sochaux 1-0, du Paris FC devant Bourg-en-Bresse 2-0, de Châteauroux à Valenciennes 2-1, 1 partout entre Auxerre et Le Havre, 0-0 pour Tours-Clermont et Niort-Nancy. Lorient accueille le Gazélec Ajaccio à 15h. Et donc au classement, Reims possède 10 points d'avance sur Nîmes et Ajaccio.
Alors que le top 14 fait relâche et que la Coupe d'Europe prend le relais, une question se pose ces temps-ci. Le rugby devient-il un sport trop violent?
Oui, beaucoup ont été choqués la semaine dernière par le chaos et la perte de connaissance du jeune Samuel Ezeala, tout juste 18 ans, qui disputait son premier match avec Clermont. Le syndicat des joueurs a tiré la sonnette d'alarme, mais du côté des joueurs, eh bien, ce ne serait pas forcément l'élément prépondérant, Jean-Michel Rascol.
Faut-il à nouveau revoir la règle qui indique qu'un joueur doit avoir au moins 18 ans pour jouer dans le top 14 ? Proval, l'union des joueurs professionnels, posait clairement la question cette semaine. Débat pas vraiment légitime pour Laurent Travers, co-entraîneur du Racing.
Non, il n'est pas légitime. Chez les Australiens, Néo-Zélandais, Anglais, etc., il y a des jeunes de 18 ans qui ont largement le niveau et qui sont formés. Donc c'est pas lié à l'âge. 70 à 80% des commotions sont liées au plaquage. Parlons beaucoup plus technique de plaquage, les hauteurs de plaquage. Je pense que c'est plus là où il faut regarder. Travailler.
Les chocs ont toujours existé. Le rugby d'aujourd'hui ne serait pas plus dangereux que celui d'hier. Laurent Labitte, l'autre technicien du Racing.
Notre génération à nous, on prenait aussi des coups de poing, on prenait des coups de pied, on prenait des coups de genoux. C'était beaucoup plus dangereux aussi parfois sur le terrain. Et le lendemain, on allait au travail, on n'avait pas le temps d'aller voir le docteur et on allait s'entraîner le mercredi qui suivait. Donc même s'il ne faut pas comparer les époques, il ne faut pas non plus aller dans l'extrême comme on peut l'entendre en disant que le rugby ressemble aujourd'hui au football américain.
Il y a 2 ans, 70 commotions cérébrales ont été observées dans le top 14. Il y en a eu 102 la saison dernière. Un accident plus grave encore n'est malheureusement pas impossible.
Jean-Michel Rascol est sur le terrain à suivre aujourd'hui en Coupe d'Europe. Ulster-La Rochelle à 13h, Exeter-Montpellier à 15h15 et Northampton-Clermont à 17h15. Enfin, en ski alpin, le Français Victor Muffat-Jandet a remporté hier le combiné de Wengen en Suisse, décrochant à 28 ans sa première victoire en Coupe du Monde.
Merci beaucoup Yann. À tout à l'heure, 8h pour votre prochain journal.